Et tout de suite, Le Voyage Radiophonique, un documentaire sonore, francophone, indépendant.
À l'été 2022, je suis contactée par David. Il est infirmier en soins palliatifs à l'hôpital des Diaconesses à Paris. Lui et son équipe aimeraient faire réaliser un documentaire sonore sur la vie de leur service, leur quotidien de soignant. L'idée, c'était de raconter les soins palliatifs de leur point de vue, très concrètement et sans taire les difficultés du métier. Je m'appelle Céline Grillon et j'ai décidé d'intituler ce documentaire « Randonnée en bord de vie ». Bonne écoute.
Oui, Laura.
C'est une urgence. Oui. Il faut la clé du placard à gâteau, s'il te plaît.
La clé du placard à gâteau.
S'il te plaît.
Je l'ai, celle-là. J'ai pas le placard à stupéfiant, mais j'ai le placard à gâteau.
Bah, alors qu'il est, je préfère le placard à gâteau que le placard à stupéfiant.
Je crois que c'est celui-là, on a le droit d'aller.
Merci, docteur. J'espère que vous avez fait.
Essaye de ne pas le piller, celui-là.
Oh là là. Oh là là. Beaucoup de oh là là.
Quel courage.
Ah, ça va être dur. Ah, je sais pas comment tu fais.
Comment tu fais pour travailler dans ce service?
Souvent, ça plombe l'ambiance.
Et alors, le pire, c'est qu'on s'enchaîne sur les histoires de décès successifs des gens qui sont autour de moi. Alors là, ça fait plomber la soirée.
Parce que quand on dit soins palliatifs, dans l'inconscient collectif, je pense, on dit mort.
Je me rappelle en arrivant avoir vu une des aides-soignantes courir dans le jardin, ramasser une boule de neige et monter avant qu'elle fonde de la donner à un patient.
Donc qu'est-ce qui est plus effrayant que la mort? La vie juste avant, quoi.
Personne ne sait ce qui se passe dans les soins palliatifs.
Une grande partie de notre travail, c'est de faire avec cette vie juste avant la mort et de faire en sorte que ça reste une vie, quoi.
Et c'est pas seulement des pleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de vie, quoi. Et la vie, c'est aussi des rires, des pleurs, des émotions. Et ça, il y en a, vraiment, il y en a.
Que ce soit pas l'antichambre de la mort, mais que ce soit la fin de la vie.
Randonnée en bord de vie.
Qui est la salle de réunion. Ouais. Concrètement, c'est là qu'on prend le petit-déj le matin. Donc, si tu veux rester après ta garde pour prendre le petit-déj, t'es le bienvenu. Et puis, c'est souvent ici que l'équipe de nuit dîne. Et tu peux dîner avec eux, bien sûr. Il y a un repas qui est servi par l'hôpital dans un panier repas qui est pas très bon parce que c'est les repas d'hôpitaux. Mais en tout cas, tu peux. Tu auras à manger si jamais tu fais le.
Ok.
Il y a ici ce qu'on appelle le salon des familles. C'est un salon où les familles, les profs peuvent se poser. Un lieu plus convivial plutôt que d'attendre dans le couloir.
Voilà le piano ici vers le salon de famille. Et, parfois nous jouons. Donc moi je suis un des aumôniers de l'hôpital, aumônier protestant. J'ai un petit accent d'origine néerlandaise. Et donc je suis aumônier sur les deux sites d'Avron et de Reilly. Depuis quelques mois.
Dès mon externat, je m'y retrouvais pas trop dans les services que j'avais croisés parce que je trouvais que parfois on était en parallèle avec la vie du patient, qu'on oubliait qu'un soin douloureux faisait mal, qu'on oubliait que c'était compliqué de pas être chez soi. Et je trouvais qu'on était vraiment à côté de la plaque. Et en soins palliatifs, j'ai trouvé des choses plus ajustées, un médecin qui n'était pas tout puissant, des équipes paramédicales qui pouvaient voir des choses qu'on ne voyait pas et nous le dire et qu'on les entende. Des patients qui pouvaient nous dire qu'en fait, ce qui était important, c'était le petit-fils qui arrivait des États-Unis et pas le chiffre de potassium. J'ai hésité à aller ailleurs en me disant, est-ce que vraiment on peut bosser dans la mort tout le temps? Est-ce que ce n'est pas mauvais pour la santé? Peut-être que je ne ferai pas toute ma vie, mais pour l'instant, je m'y retrouve. Oh, que je m'y retrouve.
Comment ça va?
Ça va.
Les douleurs?
Voilà.
Les douleurs, ça va? Enfin,
oui.
Elles ne sont pas là?
Non, elles ne sont pas là.
Ok.
Le plus tard possible.
Ben oui, même jamais, même.
Douleurs.
Hier soir, j'ai dégusté.
Non, mais là, c'est férié aujourd'hui, donc.
Oui, les douleurs devraient être au...
Ben, elles sont au repos.
Au repos.
Ben, ouais.
Bien sûr.
Ok. Tac. Ça, je l'enlève. Là, on est bon. Et là, on est bon. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?
Non.
Non?
Merci.
Bon, ben, alors, je vous laisse en bonne compagnie.
Ça va, pour l'instant.
Ah, merci. Hein?
Écoutez.
Ok.
C'est bon?
Tendre une main.
Merci.
À tout à l'heure.
Échanger. Un conseil, un sourire. On utilise toujours le mot la prise en charge. Moi, je me suis toujours donné l'objectif de ne pas utiliser ces termes-là, parce que ce n'est pas une charge. Oui, ça peut être difficile, l'accompagnement, mais on est là pour donner du soin. Donc, on prend soin.
C'est possible que changer de paradigme, donc arrêter de vouloir guérir à tout prix, comme disent certains patients, change notre rapport. L'à-côté devient primordial, alors que quand on était absolument la quantité de vie un peu à tout prix, on a un peu que ça à la bouche, quoi. Je vois bien, quand c'est la chimio, parfois, que le patient n'ait pas fait caca depuis 4 jours, bon, c'est peut-être pas primordial, quoi. Alors que nous, c'est vrai qu'on a... une prise en charge plus globale parce que c'est la qualité de vie qui est au centre et on se rend bien compte que le patient qui n'est pas à la salle depuis 4 jours, il a mal, il passe des mauvaises journées, il peut être irritable, voire complètement confus et ça change complètement sa journée, sa vie et son rapport avec ses proches. Donc tout peut prendre des proportions assez intenses.
Alors, il n'y a pas eu de douleur cette nuit. Bon, enfin, pas de douleur, c'est surtout qu'en fait, il vérifie le contenu de chaque pochon à chaque fois.
Okay.
Donc là, pour le coup, ce n'était pas douloureux, donc il n'a pas eu d'interdose. Voilà. Sinon, par contre, il était assez gêné en début de nuit par des odeurs autour de sa stomie, en fait. Mm-hmm. Donc, Eliane demandait si on ne pouvait pas trouver un diffuseur pour qu'il soit un petit peu moins incommodé. En fait, d'habitude, il met, tu sais, du parfum vraiment proche de sa stomie.
On n'a pas reparlé de ses abcès.
Il est toujours sous l'occlusion, il est toujours pour que des liquides.
Ouais, c'est là-dessus. Bon, en fait, il a des fausses selles, quoi. Donc, on se demandait hier sur l'alimentation, est-ce qu'on reste sur un truc de plaisir ou est-ce que, on limite un petit peu l'alimentation, ou sinon on lui explique qu'il y a un bénéfice-risque à chaque fois en termes de douleur, en termes de. Tu vois.
Il a demandé un fromage blanc hier midi.
Ouais.
Ouais,
mais après, il a une picore, tu vois. Je pense qu'il adapte aussi en
fonction. Il me dit qu'il mange que des clémentines, il prend des jus. Alors, les clémentines, genre, il prend juste le jus et puis il n'avale pas. Enfin, après, je lui ai bien expliqué que, bon, s'il a vraiment envie de manger. On va pas le priver, mais qu'en lui disant bien qu'il y a un risque que ça lui fasse revenir les douleurs, des vomissements.
En tout cas,
il a bien compris. Donc,
J'ai vraiment appris en arrivant ici la confiance qu'on peut avoir, qu'on doit avoir dans les patients. De pas penser risque et peur d'abord, mais se dire je lui fais confiance, il sait aussi bien ce qui est bon pour sa santé, on est là en parade. Mais ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai appris ici, vraiment par compagnonnage. Je ne suis même pas sûre que ça ait été dit.
On a eu un boxeur ici dans le service il y a 2-3 ans, que je suivais en plus, parce que j'ai vu plusieurs de ses combats, et tout le moment, je ne l'ai pas reconnu. Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Et un matin, pendant les soins, je lui ai dit, mais vous avez fait la boxe? Ben oui. Je suis. J'ai été. Et oui, ils sont amaigris, mais c'est des êtres vivants. Qui sont pleins d'émotions, avec qui on échange, avec qui on rigole, avec qui on s'est fait des blagues. Mais parfois, ils sont dans les lits, mais vous passez la porte, vous êtes vanné, mais vous demandez, mais de nous deux, qui se porte le mieux, là?
Une chaise, je m'assois avec vous.
Oui, bah oui.
Alors, comment s'est passée la nuit pour essayer de comprendre la fatigue du matin?
Donc j'ai mal, toute cette jambe ne peut plus me porter. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je fais?
Moi j'avoue que j'ai du mal à faire la part des choses entre la douleur qui limite vos mouvements. Donc quand on a mal, dès qu'on bouge, bah, évidemment on se met à moins bouger. Ou est-ce que vraiment vous avez des difficultés à mobiliser votre jambe?
Et que ça revient pas au même, je veux pas.
Bah, pour nous non, pour vous j'entends bien, mais... Pour nous, non, parce que soit on soulage la douleur et ça peut permettre de vous remobiliser, soit il y a une difficulté de mobilisation à cause de la masque dans votre ventre. Mmh. Et ça, malheureusement, on a moins d'outils pour vous aider là-dessus.
Oui, vous n'en avez même pas du tout, non? Pas depuis le début, pratiquement. Pas moins depuis...
Les corticoïdes qui peuvent diminuer un peu la masse de la tumeur.
Et on n'a jamais essayé ça.
Si, 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 on en a mis un petit peu, mais on peut les augmenter.
Et ça permettrait de...
Diminuer l'inflammation et l'œdème au niveau de la masse que vous avez dans le ventre. Et donc, ça évite d'appuyer. Et donc, notre hypothèse, c'est que la masse appuie sur les ganglions et appuie au niveau des muscles, qui fait que vous avez beaucoup plus de mal à mobiliser votre jambe. C'est par hasard si vous avez une masse à gauche, là, et si la difficulté pour mobiliser, elle est à gauche aussi.
Et donc, vous pourriez...
Augmenter un petit peu les corticoïdes.
Et alors, est-ce qu'on attaque?
Demain, si vous voulez.
La douche, quoi.
Oui, c'est une douche.
Et moi, je fais juste les toilettes.
Allez, hop, monsieur, on va du vélo.
Voilà. Être dépendant des autres, pour beaucoup de personnes, c'est un drame. Parce que la personne perd sa liberté. Et à travers la perte de sa liberté, vient tout de suite en elle la perte de sa dignité. Même si pour nous, une personne reste digne jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, et même après sa mort.
Souvent, les gens, quand ils arrivent en soins palliatifs, ils ont déjà eu un parcours de santé émaillé de pas mal de séjours à l'hôpital. Et on se rend compte au bout d'un moment que, à force... On a l'impression que leur corps leur appartient plus. D'une part parce qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent sur eux, que leur corps est dévoilé comme ça, voilà, qu'il est souvent meurtri. Et il y a une sorte de détachement. Quand on commence à faire la toilette de quelqu'un parce qu'il ne peut plus la faire seul, bon, c'est dur. Hein, parce que à qui on fait les toilettes? Ben, on fait les toilettes aux bébés, aux petits-enfants... Et puis, aux impotents, quoi. Voilà, donc, avoir du temps, c'est vraiment la base. Parce que ça permet peut-être de reporter certaines choses. Parce que là, c'est pas le moment, ça va être trop compliqué. Ou bah, d'y aller doucement, de laisser la personne un peu avec ce qui lui reste d'indépendance, bah, de l'utiliser. Alors, des fois, c'est long. Voilà, que la personne... Bah, pour boire un coup, elle va prendre 5 minutes, quoi, pour boire une gorgée, parce qu'il faut l'aider à tenir le verre, parce que... Mais c'est tellement important. T'as du mal à boire, ouais, mais t'as un petit peu, t'y arrives un peu à le tenir le verre. Tout seul, tu peux pas, mais si on t'aide, bah, c'est quand même toi qui le portes à ta bouche.
Ça rassure celui qui est en face de savoir, il est à ma disposition aussi. Même partout ailleurs, quand on est avec des amis, à partir du moment où on s'assoit, et qu'on amène l'autre à s'asseoir, ça veut dire, je suis à ta disposition. Parle-moi. Ou alors, écoute-moi. J'ai à te dire. Quand vous avez le professeur qui arrive avec ses étudiants, ses internes, même s'ils ne sont que deux ou trois, et que vous, vous êtes au fond de votre lit, ils sont tous debout, c'est des seigneurs. Ils vous écrasent. Et à quel moment... Il va se sentir libre de vous exprimer tout ce qu'il ressent. Déjà, vous êtes debout, vous êtes sur le départ.
En regardant le paysage devant moi, je disais, c'est là que je veux finir ma vie.
Ici ?
Oui.
C'est important, ça.
Ah, mais c'est pas pour ça qu'il faut me faire mourir tout de suite.
Mais j'ai pas le sentiment que vous allez mourir tout de suite, non. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet ici? Ça peut être des projets qui vont de
aller prendre un apéritif avec vos proches dans le jardin, vous déplacer un petit peu plus dans la chambre, je sais pas, c'est...
Mm-hmm.
Ou, je sais pas, des moments précieux avec vos petits-enfants, avec tous vos frères et sœurs.
Mm-hmm.
Quand ils arrivent, ils pensent qu'ils arrivent pour mourir et ils ont pas conscience qu'il va leur rester du temps encore. Parce qu'ils arrivent souvent avec des douleurs, donc ils sont centrés sur leur douleur, ce qu'on peut comprendre. Quand on a mal, on est complètement centré sur la douleur. Et on arrive au mieux, et vraiment, on y arrive bien, à lever ces douleurs, à les atténuer, voire à les enlever complètement. Et donc, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus mal. Ils comprennent bien qu'ils arrivent au bout de leur vie. Mais tout d'un coup, ils n'ont plus cette douleur qui les préoccupait, qui les faisait être centrés dessus. Donc, ils ont comme un surplus de vie. Alors, ça peut être merveilleux, ça peut être aussi un peu angoissant. Hein. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là ? Alors, bah nous, on les aide à ça, à comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Ça peut être leurs proches, mais ça peut être simplement... regarder la télé, faire une séance avec l'art thérapeute, venir manger avec nous le goûter. Voilà, faut être humble, hein, c'est des tout petites choses. Mais c'est un temps un peu suspendu.
La lumière. Quelque chose de lumineux. Alors que... on pense que tout s'obscurcit autour de soi. Une légèreté qui a énormément aidé mon mari à partir en paix et qui nous a permis de vivre ce que nous devions vivre, en tout cas le vivre à 300%. Et je me rappelle d'une dame qui, quand elle sortait de la cuisine, criait dans le couloir « Bon, mes petits chats, maman arrive !» C'était fabuleux parce que lui, ça me faisait beaucoup rire. Moi aussi, il y avait un côté qui m'infantilisait et qui m'a fait du bien à ce moment-là. Parce que je n'avais pas l'impression de porter les choses. Ils nous ont décentrés, vous voyez. Nous n'étions pas un couple dont l'un va mourir. Nous étions les deux Franck.
Madame Coppel, j'ai reçu votre lettre après le décès de mon mari avec beaucoup d'émotion. Comme vous pouvez l'imaginer, ce mois de mars a été très dur pour nous. Aussi, je réalise seulement maintenant à quel point il est important que je prenne le temps de saluer le travail exceptionnel que vous avez accompli tous les jours. Vous m'avez permis de vivre l'innommable et de dépasser l'inacceptable. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour mon père et la vie que vous avez ramenée dans sa chambre à chacune de vos entrées. S'il vous plaît, continuez de nous sourire, même si on n'a pas la force de vous le rendre.
Oui, qu'on fasse un petit point aujourd'hui.
En fait, c'est parce que
on est très. Enfin, on comprend que. Ça va pas bien du tout, du tout. Et on est très... On est, bien sûr, on veut jamais se faire à l'éventualité, mais on sait que c'est la fin. Et par contre, ce qui nous ennuie, c'est qu'il souffre.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce que qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'à un moment donné, vous attendez que ce soit nous qui vous donnions... dire que... Bah, arrêtez de le maintenir comme ça parce qu'il souffre et que... Moi, cette nuit, je parlais avec lui à minuit et demi. Et il me disait qu'il gambergeait sur ça, quoi.
Alors, nous, au niveau des traitements de la douleur, on va augmenter nos traitements parce que je pense qu'on a encore un petit peu de marge. Mais c'est vrai que la loi Leonetti de 2016 nous dit que si un patient est vraiment... si on le trouve vraiment en fin de vie et que lui a une douleur insupportable et que nous, on ne peut pas traiter, qu'il est réfractaire, à ce moment-là, il est en droit, on demande de pouvoir à ce qu'on puisse l'endormir.
La sédation profonde et continue jusqu'au décès. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, mais celle qui nous concerne en soins palliatifs, c'est un patient qui a un symptôme réfractaire et qui a une espérance de vie engagée à court terme. Dans notre service, on a dit que c'était environ 15 jours. Donc, si ce patient en fait une demande répétée et qui nous semble éclairée, on se réunit collégialement et on va dire si ces deux symptômes sont réunis ou pas. Dans ce cas-là, on met en route une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça veut dire qu'on va endormir le patient. L'idée, c'est d'accompagner la fin de sa vie en le faisant dormir et pas d'accélérer sa fin de vie.
Monsieur, c'est moi à nouveau.
On va éteindre la télé parce que sinon je vais vouloir regarder avec vous. Je prends la chaise. J'ai vu votre épouse et vos deux filles. Je n'avais jamais vu vos deux filles, donc c'est bien, on a pu discuter un petit peu avec, on a fait le point. Oui. Elles vous ont un petit peu dit de quoi on avait parlé?
Non.
Non. En fait, ce matin, vous m'avez dit quelque chose. J'ai fait exprès de ne pas le retenir. Vous m'avez dit, si c'est comme ça, autant partir.
Oui.
Et donc, je rebondis ce soir. Est-ce que il y a un vrai ras-le-bol et que si vous pouviez partir, ça serait quelque chose? Si je vous proposais qu'on fasse un traitement pour vous faire dormir jusqu'au bout, est-ce que c'est quelque chose...
Oh oui, je pense.
Ouais. Vous y avez déjà pensé auparavant?
Non, j'y avais pas pensé.
Ouais.
Parce que j'avais toujours pensé m'en sortir. Et je vois que là, non, je souffre.
Oui.
Pour rien.
D'accord. Et qu'on a déjà fait deux tentatives de retour à la maison qui n'ont pas pu avoir lieu et que finalement, moi j'avais dit la semaine dernière qu'on allait vous garder dans le service jusqu'à la fin pour pouvoir vous soulager. Mais j'ai presque envie de dire, même malgré les traitements qu'on vous met en place, qu'on augmente hein, progressivement, en fait, on court après la douleur. Hein, c'est un petit peu ça. Il y a une loi qui a été faite en 2016 qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui permet de proposer à la demande, hein, c'est des patients qui nous disent de pouvoir, en fait, de dormir jusqu'au bout, en fait, jusqu'au décès. Donc avec les médicaments qu'on a là, déjà vous avez un traitement, vous savez, le midazolam, le médicament qui lutte contre l'anxiété, on peut augmenter progressivement jusqu'à ce que vous endormiez.
Quand vous me dites ça, laissez dormir et compagnie.
Oui.
J'aurais envie de m'endormir comme ça.
Alors ça va pas se faire non plus dans l'urgence. Hein. Là, aujourd'hui, on en parle. On en reparlera, je pense, demain et peut-être un peu mercredi. De toute façon, on en parle tous les jours. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de tabou. Et moi, à côté, une fois que je suis certain que c'est aussi votre demande,
oui.
Ça vient de vous, puisque moi, je vous ai juste informé. Si vous confirmez qu'on parte dans ce chemin-là, moi derrière, il faut que je fasse une réunion avec l'ensemble de mon équipe pour savoir si vraiment les critères sont réunis pour qu'on fasse cette sédation.
D'accord.
Il arrive que des gens demandent la sédation et une fois qu'elle est validée, des fois, les gens, ok, bon, puis ils attendent, et puis après, bon, ils vont décéder sans avoir eu la sédation, parce que déjà, de savoir que c'est faisable, moi, déjà, ça va mieux. Je pense que ça rassure de savoir qu'il y a quand même une solution. Quoi. Après, il y a des gens, sédation, d'accord, bon, bah, je descends fumer ma clope, et puis après, on y va. si les lois sont modifiées et que l'euthanasie est autorisée, après, il faudra trouver les gens pour appuyer sur la seringue. Hein. C'est pas la même chose du tout. Hein. Moi, je sais pas quelle sera ma position, vraiment. Hein. En fait, moi, je jugerai pas quelqu'un qui va me dire bah, « Moi, ça me pose aucun problème de le faire. » Parce que c'est une demande de quelqu'un, c'est quelqu'un qui souffre, enfin, pour les mêmes raisons, qui va me dire « Mais pour moi, c'est une prise en soin, hein, c'est vraiment... » Parce que effectivement, c'est quand même ça. Mais quand même, rentrer chez soi en se disant bah aujourd'hui moi bah, j'ai tué quelqu'un, relax, tranquillou, qu'est-ce qu'on mange, alors que j'ai sûrement déjà eu des gestes ou bah, qui ont pu accélérer la mort de quelqu'un ou voilà.
Et non mais c'était vraiment un coup de foudre, je te dis franchement, et je lui ai dit vraiment. J'ai dit, vous êtes beau, vous me plaisez. Mais comme ça, tu vois, c'était... Voilà. Et en fait, lui, il me regarde...
Il y avait sa femme qui sortait des toilettes.
Il me dit, mon mari est à la douche.
J'ai dit, te connaissant, j'arrivais pas à
le voir. Je voulais dire, Salmom, c'est quoi ton problème, là, ton mari là. Toi, du coup, j'ai voulu d'un truc comme ça. Et puis après, je me suis retenue. Puis je vois son mari qui sort effectivement, beau gosse aussi. Et du coup, j'ai dit, bon, je laisse passer. Et je retourne lui ramener une carafe. Et puis il dit à son mari, tu sais, chérie, si je l'avais connue avant, c'est sûr que j'allais avoir une relation avec elle. Wow. Alors Olivia a commencé à parler de moi. Tu sais que je sais que j'étais une folle, tout et tout. Il a dit, mais c'est sa folie que j'aime. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est parti comme ça. Et puis en fait, il se mariait ce jour-là. Mmh. Et j'ai passé l'après-midi avec lui dans la chambre, tu vois. Mmh. Et le soir... Je vais pour terminer mon boulot, pour partir, et on m'appelle. Et quand je vais, il me dit, pour la plus belle, hein, j'ai laissé quelque chose. Et là, il me laisse le vrai bouquet. Il m'a dit, je ne l'ai pas lancé, parce que je le laisse pour toi. Ah, c'était trop beau.
Vous
savez et
pas ça.
Voilà.
À toute l'équipe des soins palliatifs, ce témoignage est bien tardif, et pourtant vous êtes tous souvent dans mes pensées. Mon père a été accueilli dans votre service début mai 2019. Chaque geste, parole, regard était juste et attentionné. Papa, tout comme moi, a apprécié votre délicatesse, votre respect et votre gentillesse. Les petites attentions, comme lui masser les pieds, lui humidifier la bouche, comme les grandes, de le soulager de son mal et de sa gêne respiratoire. J'ai apprécié votre communication honnête sur son état de santé et son évolution. Cela m'a permis de prendre les bonnes décisions avec plus de sérénité. Merci d'avoir été présent à ce moment-là aussi, pour moi, et de m'avoir permis de rester auprès de lui.
Je comprends pas, quoi.
Pourquoi ?
Bah, il est parti, quoi. Il souffre et franchement, on ne fait pas ça à son petit chien.
C'est pas fort, hein, ce que vous dites.
Oui, c'est fort, mais parce que je l'aime.
Je sais bien.
Qu'est-ce que c'est de prolonger d'un jour, deux jours, trois jours, souffrir comme il souffre ? C'est pas de votre faute, mais j'incrimine personne.
Non, non, je suis là pour ça. Vous savez, je fais gilet pare-balles aussi.
Non, mais... C'est tellement... Voilà. Il va pas rester comme ça des mois. Bien sûr, on pique, il dort. C'est pas soigné, ça.
Les derniers bouts de chemin qu'ils ont, ils seront le plus long. Parce que c'est là où on voit encore plus la dégradation de l'autre. On est dans l'incapacité. On veut que ça s'arrête tout de suite, mais... C'est pas possible. Parce que moi, le monsieur, je pense qu'il est soulagé, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il se rend compte que bon, sa maladie aussi évolue. Hein. Il dit, il s'est réveillé en l'eau chaude, On ne va pas le laisser aussi dans la douleur, parce que s'il est douloureux, elle ne sera pas bien non plus. Donc, elle va être agacée, elle va être en colère, qu'on ne fait rien. C'est un peu ce qui se passe, parce que quand on fait, il trouve qu'on fait trop, ou alors il veut qu'on aille plus loin, et quand on ne fait pas, c'est qu'on ne fait pas assez. Des fois, on peut se dire que c'est un peu saoulant.
Mais après, on s'est dit, c'est un peu normal.
C'est une douleur très singulière, la douleur du deuil. Et c'est vraiment ça, une spécificité des soins palliatifs, d'accompagner autant le patient que les proches, à approcher de cette réalité qui va arriver. Oui, votre papa va arriver à la fin de sa vie. Comment c'est pour vous d'imaginer ça? Comment vous réagissez à ça? Et puis, en fonction de là où ils en sont et en fonction de ce qu'ils nous disent, on aménage autour d'eux du temps, de l'accompagnement. On les aide à trouver des personnes ressources pour eux, à mettre du sens, voilà, vraiment, sur ce qui se passe, mais à leur rythme et en fonction de ce qu'ils peuvent entendre.
Personnellement, je trouve que c'est hyper difficile, ces montagnes, juste qu'on fait avec les familles. Déjà, on le fait avec les patients, mais on le comprend plus, on le comprend mieux. Tous les jours, ils arrivent, ils font le point, on fait le point, on remet quasiment les mêmes choses, parce que parfois, la dégradation n'est pas immédiate, quoi. Donc, ils trouvent le temps long, et ce temps long-là, il faut le meubler, il faut l'occuper. Et meubler l'espace, c'est quoi? C'est toujours chercher le petit truc qui va pas, pour s'appuyer dessus et dire, il y a un truc qui va pas. Pourquoi aujourd'hui il a cligné d'un œil et la veille il cligne de l'autre? Parfois ils disent qu'il y a des choses qui vont bien. Mais c'est cette répétition quotidienne, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Par moments, je me dis, j'ai juste envie de lui dire, mais il faut juste être présent.
Ils savent plus comment faire, quoi. Ils savent plus comment, par exemple, se tenir à côté de leur personne qui est en train de, leur proche qui est en train de décéder. Ils peuvent dire, ben, mon mari est en train de mourir, mais je ne sais pas quoi lui dire. Nous, les psychologues, on a une place de choix, hein, vraiment ici, à ce moment-là, hein, de leur dire, mais qu'est-ce qu'il vous vient de lui dire? Et là, il y a des paroles merveilleuses qui sortent. Hein. J'ai jamais dit à ma mère que je l'aimais. Et si c'était le moment? Ah, je ne peux pas. Alors, comment vous pouvez lui signifier? Ben peut-être je peux lui caresser la main. Peut-être, essayez. Vous voyez, donc c'est de la dentelle, hein, mais c'est magnifique. C'est des moments de vie extraordinaires.
De temps en temps, j'aime bien leur mettre de la musique. Parce que j'ai toujours l'impression en fait, qu'ils entendent, mais qu'ils ne peuvent pas réagir, en fait. Donc du coup, pour nous, en fait, pour leur montrer voilà, qu'on est là, ne serait-ce que de mettre de la musique, c'est important.
Samedi matin, elle était entre 3,5 et 4 de bida, mais je l'avais trouvée plutôt confortable. On avait dû faire quand même 2 ou 3 bolus couplés. On a tenté les aérosols qui la soulagent parce qu'elle était très spastique. Et en fait, hier matin, elle était à nouveau pas confortable, donc elle est sous Dexdor. Et quand je suis partie hier sous Dexdor 0,7 gamma kilo, elle était très paisible. On avait aussi mis les aérosols en systématique parce que l'équipe ne les faisait pas forcément. Et je trouve que ça l'a quand même améliorée, un peu moins spastique, donc un peu moins polypnique. Pas encombrée, donc j'ai pas touché au scobu, elle avait 60. Pas douloureuse, en tout cas les peu de fois où on a pu avoir un contact avec elle, quand elle se réveille un peu en détresse, elle se plaint de la dyspnée, mais pas du tout de douleur. Monsieur n'a pas posé de soucis symptomatiques, il a parfois quelques épisodes de douleur aiguë, mais qui sont bien soulagés par les interdoses. Le gros souci, c'est madame qui a choisi sa chambre, donc elle a insisté tout le week-end. Franchement, moi j'ai beaucoup de mal à les prendre en charge tous les deux, je n'y arrive plus. Donc elle a râlé à plusieurs reprises pour dire que la chambre était trop petite. Du coup, elle est partie s'endormir vendredi soir et elle a dit qu'elle ne reviendrait pas dormir puisque la chambre était trop petite. Donc Vincent lui a redit qu'on pouvait mettre un lit quand même. Mais elle a été visiter la chambre 141 qui était ouverte parce qu'il y avait du matériel dedans et elle a dit qu'elle voulait cette chambre-là. Je pense qu'une petite rotation serait pas mal.
Je pense parce qu'elle dort ici, tu vois. Moi qui ne l'ai pas suivi depuis longtemps, moi je trouve que c'est justifié qu'elle change de chambre.
Mais je suis assez d'accord.
La chambre à 44 est pas, ouais. Enfin, elle est toute petite et si elle dort là, elle dort là quasiment toute la nuit maintenant.
Moi, je ne veux plus parler à madame.
On devient un peu mal.
Je le fais, mais j'ai aucune envie d'aller assez devant. Aucune.
En fait, aussi, il y a des patients qui nous énervent parce qu'ils ne sont pas gentils, mais qu'en fait, c'est comme la vraie vie. On a l'impression qu'on est des monstres si on est énervé par nos patients qui sont en train de mourir. Or, et déjà, ils ne sont pas tout le temps en train de mourir. Et deuxièmement, bah, on a aussi envie de faire du bon travail. Et quand des personnes très agressives, il y a des familles très violentes. On a eu une famille il n'y a pas très longtemps, on a dû appeler les flics en pleine nuit. C'est vraiment pas du tout dans l'ADN de notre service. Vraiment, c'est dernière extrémité. C'était une famille qui avait l'impression que nos médicaments endormaient et tuaient le patient. De façon très schématique, ils n'acceptaient pas que le patient était endormi et spontanément parce qu'il allait moins bien et que les choses s'aggravaient pour lui. Si on est en forme, que l'équipe est solide, on arrive bien à voir que c'est un déplacement, que la famille ou le patient est en colère contre ce qui se passe, pas contre nous. Mais bon, voilà, on a le droit aussi d'être mal luné, d'être fatigué. Et dans ces cas-là, c'est dur à porter. Et pas le prendre personnellement, surtout quand on nous dit qu'on est un mauvais médecin ou un mauvais infirmier, un mauvais aide-soignant, c'est parfois dur.
C'est là où c'est aussi chouette en soins palliatifs parce qu'on finit par se connaître, on connaît ses limites. Et quand on voit qu'on a déjà atteint sa limite, on passe la main. Mon cher collègue, est-ce que tu peux? Parce que moi, je ne peux plus.
Le rangement du matériel, ça peut être légèrement fatigant, mais ça détend. Parce qu'en fait, on fait les choses machinalement. Et du coup, c'est un peu comme les personnes qui font la vaisselle pour se vider l'esprit. Moi, des fois, ça me fait cet effet-là, quoi. Alors, est-ce que j'ai tout? Non, j'ai pas ça.
On absorbe beaucoup de choses. Je pense pas qu'on puisse travailler tout seul en soins palliatifs, quoi. La situation est difficile, je sors d'une chambre. Bah alors, qu'est-ce que t'as? T'es pas bien? Ah non, je suis pas bien. Ah bon, bah viens, on va boire un petit café.
Si vous voulez pouvoir soigner l'autre, il faut d'abord prendre soin de soi. Il faut être bien dans sa tête. Si vous êtes toujours en train de donner, vous ne pouvez pas après. C'est fini, vous allez vous épuiser, vous faner, vous flétrir, voilà, et exploser en vol. Donc prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. La cadre qui était là précédemment, elle faisait régulièrement des cakes. Voilà, elle faisait des cakes. Moi, la cuisine, j'aime bien, mais oh là là, j'ai pas le temps. Voilà. Des cakes, moi, ce sont des bonbons. J'ai toujours fonctionné avec des bonbons, des chocolats. Donc, ils me disent, ah, je prends des forces avant de retourner dans une chambre. Allez-y, prenez un bonbon. Ou même, après, des émotions, je prends un bonbon. Bref, c'est un petit petite douceur.
J'avais une fatigue physique de par mes problèmes, ce que j'ai traversé, mais une fatigue aussi psychologique. Je ne me rendais pas compte. Je me sens tellement bien dans ce service. Bon, alors ne vous inquiétez pas, je vais quand même tenter de rentrer chez moi. Hein. Le but, c'est d'entrer. Je ne veux pas camper ici.
Mais oui, mais j'ai compris effectivement qu'avant le week-end, vous n'aviez pas trop, voire pas du tout envie de parler de retour à la maison. Là, c'est pas pressé, mais vous commencez à l'envisager.
À la maison, c'est pas évident parce que je suis là, j'observe, je vois mon mari qui court dans tous les sens, qui gère la maison, les repas, les enfants. Du coup, j'ai un sentiment d'inutilité. En plus, le regard de mon mari qui m'observait, qui me scrutait, qui... Tu manges pas, tu te dégrades. Et là, au contraire, les gens... Ah, c'est bien, madame. Vous n'avez pas mangé beaucoup, mais c'est bien ce que vous avez mangé. C'est déjà très bien. Demain, ce sera mieux.
Après, on peut se dire ça, hein, que l'objectif, là, c'est de se dire que quand vous êtes ici, vous reprenez de l'énergie et de les forces. Quand vous êtes chez vous, effectivement, vous êtes obligé d'en donner. Parce que c'est ça, une maman, ça donne un peu de l'énergie. Mais finalement, c'est rassurant aussi d'être encore capable d'en donner. Donc, on peut peut-être... faire un projet où, effectivement, il y a des alternances. Pas mal, ça.
Tu peux me passer l'huile, là, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu veux?
T'arrives à douce.
Ça vous fait mal?
Non.
Ah. Vous me dites, hein?
Ok, donc un bilan, mais... Bon, de toute façon, c'est une FS avec un iono et un bilan hépatique, hein, et calcium, albumine et calcium. Mais tu vois la dame cliniquement, tu vois bien dans quel état elle est. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas... Alors, je suis pas docteur, mais j'ai pas besoin de bilan. Hein. Mais si, non, enfin, je veux dire, on est en palliatif ou on l'est pas, quoi. Je veux dire, je sais pas.
Bah, c'est une dame qui a eu pas mal d'infections à répétition avec des germes qui deviennent résistants parce qu'elle est tout le temps hospitalisée, donc elle a des bactéries hospitalières et un peu une escalade antibiotique. Et là, on se demande est-ce que la médecine va un peu loin parce qu'on utilise l'antibiotique toujours plus fort. On peut se dire qu'il faut le faire parce qu'on gagne du temps pour elle et une bonne qualité de vie. D'un autre côté, on se demande si c'est pas toujours plus d'hospitalisation, toujours plus de tuyaux, d'examens, de prise de sang, de surveillance. Parce que si on fait quelque chose, bah, faut le surveiller, faut savoir ce qu'on fait. Donc là, on est un peu entre deux. Et en même temps, elle, je pense pas qu'elle entendrait notre réflexion sur est-ce que ça va un peu, pas un peu loin. Elle va nous dire, j'ai de la fièvre, traitez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez pas? En fait, la qualité de vie, c'est relatif. Hein. Elle trouve qu'elle en a une pas si mauvaise. Elle va fumer, elle voit ses proches. Et même psychologiquement pour elle, se dire qu'on fait pas tout pour la sauver, je pense que ça va être dur. Bon, ça, c'est l'argument numéro un. Mais bon, on est vendredi midi, il faut que ce soit à peu près clair pour la médecin du week-end. Il faut pas qu'elle se retrouve toute seule à décider de quelque chose que nous, on a laissé en friche vendredi soir. Je pense que si pour la famille et la patiente, c'est indispensable de traiter à fond l'infection, il faut qu'elle change de service. Parce que en plus, nous, on le fera pas très bien. On n'a pas de surveillance de la tension, de la température 3 fois par jour. S'ils veulent une prise en charge aux petits oignons là-dessus, on ne sera pas les meilleurs. En fait, ce sera aussi un argument pour changer de service. Ça va, je pense que nous confronter avec cette idée et avec la famille va nous aider à trouver le meilleur endroit pour la patiente. Et le problème, c'est que cette dame, elle a une pompe à morphine intrathécale, donc au niveau des méninges. Et ça, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir la prendre dans d'autres services.
Qui est absent. On va passer de côté à la prise dans l'office alimentaire qui brûle.
Ah,
non, on va s'arrêter,
c'est
plus alimentaire.
Ouais. Il y a la prise.
On évacue. Des personnes âgées d'abord, allez-y, je ne fais pas
ces dents. Ça brûle derrière.
Il y a le feu vraiment là, partout.
C'est où?
L'office.
Ici, non?
Ne vous sorte, madame. Elle est sortie,
c'est parfait. Là, il n'y a personne. C'est bon,
là, il
n'y
a plus personne. Elle est sortie,
il
faut juste qu'on l'intercepte après.
Alors, moi, je n'ai qu'un seul mot à dire. Bravo. Voilà. Il n'y a aucun blessé parmi les professionnels soignants. Il n'y a aucun patient qui n'a été blessé. Il n'y a aucune famille qui a été impactée. Donc, une nouvelle fois, bravo.
Il y a du monde qui a...
Allez-y, on va venir chanter.
On n'a pas oublié.
Bon, on va peut-être dire quand même trois mots.
Au niveau des familles, tout le monde a été informé. Donc, comme l'a dit Laure plus tôt et comme on l'a dit aussi, ils vont checker, nettoyer. Tout le monde ne pourra pas y aller, je pense pas. On va entendre ce qu'ils vont me dire. Vous allez pouvoir récupérer vos affaires, mais pas tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions?
Non.
Ok, bah, il y a un anniversaire à fêter.
Allez, allez. Venez, on va chanter quand même.
Allez, on va chanter. Madame, elle a 60 ans, c'est pas
mal. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Ce qu'on vit, nous, tous les jours, qui est notre quotidien et notre travail, pour plein de personnes... C'est pour les familles, ils vont s'en souvenir toute leur vie. En fait, c'est des moments comme ça intenses pour eux que nous, on vit un peu à la suite. C'est les moments forts, je pense, que j'aime le mieux dans mon travail.
Ça peut faire des années qu'on travaille dans ce service. Quand on assiste au décès de quelqu'un, il y a une espèce de sensation hyper bizarre et c'est un moment complètement hors du temps, en fait. Et je sais qu'à chaque fois, moi, ça me bouleverse. Et même si c'est des gens que j'ai pas connus ou avec qui j'ai pas eu de lien, de rester et de tenir la main, d'accompagner jusqu'au bout, juste de les rassurer, de leur dire « Vous n'êtes pas tout seul, on est avec vous, vous pouvez partir tranquillement », c'est un moment incroyable, hors du temps, et c'est toujours bouleversant, en fait.
Pauline, décédée le 24 juin 2022 à minuit 35. Ce départ nous aura tous touchés. Tous se souviendront de cette histoire, chacun à sa façon. Une patiente touchante et adorable, réservée, attentive au moindre de nos gestes. Une allure de nymphe avec ses petites robes légères et ses bouclettes. Je me rappelle d'ailleurs. Qui auréole son visage encore juvénile. Parfois, vous faisiez des mouvements de danse dans votre chambre devant votre amie, comme pour conjurer le sort et écarter cette jungle de fils qui entoure, telle de lianes, le tronc de votre pied de perfusion. Votre mari, admiratif, vous enveloppe de son regard. Nous vous souhaitons un bon envol là où vous allez. C'est ainsi que je me souviens de vous, légère et aimée. C'était moi qui avais écrit.
Les soins palliatifs, c'est vraiment un lieu de rencontre. Pour prendre soin de quelqu'un, il faut le rencontrer quelque part.
C'est une patiente qui m'a beaucoup marquée. Je pense qu'il y a eu un peu de transfert parce qu'on avait le même âge, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui avaient mon âge. Elle n'était pas très malade. Elle était très, très malade, dans le sens où on avait une maladie très grave. Mais elle était un peu au-dessus de ça parfois. Une collègue écrivait dans le cahier de décès qu'elle dansait avec ses perfusions pour oublier la maladie. Elle faisait parfois des poèmes. Elle pouvait être. Elle n'avait pas un rapport médecin-patient habituel. Elle pouvait un peu nous dire ce qu'elle pensait. Elle s'est mariée alors qu'elle était chez nous. Enfin, elle s'est mariée en Bretagne, mais elle était chez nous. Et elle pouvait me dire oh, mais docteur, vous êtes mariée aussi. Alors, c'était comment pour vous? Et voilà. Et donc, cette dame, quand elle est décédée, je savais à l'avance que ce serait compliqué pour moi. Je suis allée à son enterrement, ce que je n'avais jamais fait. Je ne suis pas sûre de le refaire un jour. J'y suis allée avec deux collègues. Je ne serais pas allée seule, je pense, parce que pour le coup, je voulais y aller en tant que médecin du service et pas en tant qu'Inès, parce que je pense que ça aurait été compliqué. Voilà, ça n'a pas été simple. J'ai gardé le petit imprimé là de son enterrement. Je ne l'ai pas ramené chez moi. Clairement, ça fait partie de l'hôpital. Il faut que ça en fasse partie, mais je pense à elle régulièrement. Il y a un ou deux patients comme ça par an qui me marquent. Et j'essaye vraiment de me redire, je suis chanceuse de les avoir rencontrés et pas que de penser à leur mort. Parce qu'il y a aussi une partie de moi qui me demande parfois pourquoi moi je suis en pleine santé. C'était encore pire quand j'étais enceinte, parce que là, il n'y a pas plus vivant, en fait, de porter la vie. Et parfois, je culpabilisais un peu de ça.
À nous tous, ça peut tous nous arriver. Sans t'en rendre compte, hein, mais ça peut te brûler les ailes. Parce qu'effectivement, il y a aussi un côté hyper valorisant quand ça matche bien avec un patient. Parce que c'est des gens qui sont... Il y a une détresse, souvent, qu'il y a une détresse, tu vois. Donc tu sens que tu lui fais du bien, que ça passe bien et tout. Donc, c'est ça aussi qui est important dans le travail d'équipe. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte. Mais il faut arriver à entendre le collègue qui va te dire « Fais une petite pause aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais le prendre. C'est moi qui m'occupe de telle chambre. »« Ah non, mais c'est bon, on s'entend. Fais une petite pause. »
Moi, j'ai mes petits rituels. Quand je rentre chez moi, j'ai besoin de prendre une douche pour me laver de ma journée, même émotionnellement, etc. Au début, je m'y forçais et maintenant, c'est inconscient. J'enlève ma blouse,
je remets ma tenue de ville, je remets ma tenue de humaine lambda, et je... Même si j'ai toujours cette casquette-là qui est jamais loin, j'essaye surtout de ne pas penser aux patients. Et ça, c'est vraiment, je trouve, l'indice le plus important que je suis bien, que j'ai un bon équilibre entre ma vie personnelle et le travail, en fait.
Bonsoir. Comment ça va ce soir ?
Ça va.
Ouais ? Ouais. Est-ce que vous avez des douleurs ?
Pour l'instant, pas trop, mais... Ce matin, c'est bien. Ils m'ont donné comme d'habitude.
Ils ont un petit peu monté la dose de la dose de fond, vous savez, de ce qui est non.
D'accord.
J'ai une nièce. Aujourd'hui, elle est venue me voir, parce qu'elle travaille pas très loin d'ici. Et puis, on a parlé de choses et d'autres. Et puis, c'est la première fois que je parlais de choses un peu intimes au niveau de la famille et tout ça. Les relations entre les uns et les autres. Des façons de vivre différentes les uns les autres. Il faut prendre le temps de rencontrer les gens, demander aux gens de prendre le temps de s'asseoir deux secondes et puis d'évoquer telle et telle question qu'on n'a jamais évoquée parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on ne pense pas que ça puisse déboucher sur quelque chose et tout ça. Quoi. C'est idiot, quoi. C'est complètement fou de pas prendre ce temps-là. Quoi.
Oui, bonjour, vous êtes la maman de monsieur Apitri ? Oui, je suis le docteur Ardouin qui m'occupe de lui. Oui, j'ai une nouvelle difficile à vous annoncer. Ouais, il vient de nous quitter, il était avec son amie Ève. Ouais, je sais que vous arrivez. D'accord. Prenez votre temps, on est auprès de lui. Mes collègues, là, prennent soin de lui. Donc, arrivez tranquillement, on sera là. D'accord, à tout de suite. Attends, j'ai des boules, en vrai, il était là il y a deux jours, il parlait et tout.
Enfin bon, c'est comme ça. J'ai vu avec Guylaine, on maintient les deux entrées de lundi et j'ai un lit d'urgence pour le week-end.
Une fois par mois, on se réunit en équipe et on ouvre le cahier de deuil, c'est-à-dire le cahier où sont nommés tous les jours où quelqu'un décède. On met une étiquette à son nom et on dit comment il est décédé, à quelle heure. Et les personnes qui l'ont accompagné ces dernières semaines peuvent mettre un petit mot. Et une fois par mois, donc on se réunit tous ensemble avec ce cahier de deuil et on ouvre à la page du mois d'avant. Donc on reparle. Toutes les personnes décédées dans le mois. Donc on les remet dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos cœurs aussi, afin de pouvoir fermer la parenthèse définitivement. On laisse partir cette histoire et on fait de la place pour d'autres.
Décédé le 10 octobre 2022 à 18h, Karim est décédé très rapidement en présence de son mari. Moment extrêmement émouvant. Pour un homme d'une immense gentillesse.
Patiente décédée le 7 octobre à 14h20, seul paisiblement dans sa chambre.
Patiente qui appréciait boire son petit verre de rosé frais. Signé Mélanie.
Pensée émue pour votre chien en peluche qui passait de génération en génération.
Elle l'adorait cette peluche.
Bah oui, c'était son doudou. Hein.
C'était une dame d'origine italienne.
C'est même les copines qui avaient fait le rôle du mari qui était un peu dépassé par les événements de même.
Il a fini.
Connu le temps d'une toilette.
C'était intense.
C'était un soir de chambre.
Et une fois, il m'avait marié. Je n'étais pas partie. Il m'a dit venez là, tout doux, avec sa voix toute douce. C'est vrai qu'il était d'une gentillesse et il m'avait massé le haut du dos. Alors, mais un bref instant, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Et puis je dis bon, et tout. C'est surtout sa compagne Marie qui a été. C'était un bon accompagnement avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse aussi de sa part.
Grâce à votre épouse,
je pense que c'est un des patients qu'on a suivi.
Bon pruneau fourré au pruneau. Ah oui.
Mais c'est vrai.
Elle nous avait offert une spécialité, mais improbable.
Bruno fourré au pruneau.
Randonnée en bord de vie. Un documentaire sonore de Céline Grillon en collaboration avec l'unité de soins palliatifs du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. Prise de son, montage, réalisation, Céline Grillon. Mixage, Ubiquiti. Musique, Andreas Louf, Bettina Kin et Emma Avogardi. Conseil et coordination, David Boisiz, Katerina Zekopoulos, Inès Ardouin, Olivier Manimben, Anne-Solène Lebihan, Alexandre Dupuis et Serge-Michel Veil. Merci aux patients et à leurs familles qui ont bien voulu m'ouvrir la porte de ces instants si particuliers. Merci à toute l'équipe de soins, Hélène, Laura, Stéphane, Virginie, Mélanie, Anthony, Marine, Dan, Sophie, Augustin, Marie-André, Laure, Guylaine, Valérie, Marilyn, Josiane, Frahati, Marie, Quentin, Chauden, Célia, Jérôme, Jackie Sandriaina, Florent, Dianaba, Juan, Georgine, Nogueil, Véronique, Catherine, Marie-Aude, Roger, Vincent, Ingrid, Émilie, Olivia et Corinne.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. La 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Des